Donc on va terminer, on arrive au bout de l'histoire de Déborah. Alors pour ceux qui n'ont pas eu le début, je vais faire un petit rappel rapide, le plus rapide possible en tout cas. Donc l'histoire de Déborah se situe dans le livre des Juges, qui est un livre, comme je dis souvent, assez déprimant, parce qu'il est très proche de ce qu'on vit. Il y a des cycles assez pénibles. Le peuple est béni. Il a son territoire, il vit dans la paix et il trouve rien de mieux à faire que de se mettre à adorer des idoles et, comme le dit la Bible, jusqu'à sacrifier leurs enfants aux idoles, ce qui est vraiment ignoble. Et on se demande comment ils ont pu en arriver là. Et puis, du coup, bien, Dieu les laisse un peu à leurs mauvaises œuvres et ils se retrouvent dans la difficulté, opprimés par les ennemis qui les entourent, 20 ans, 40 ans, suivant les cas. Et puis, ils crient à Dieu quand ils en ont vraiment marre de cette oppression. Dieu envoie quelqu'un pour les délivrer. Et ça recommence. Ils sont délivrés. Ils vivent dans la paix. Ouf. Et après quelques années, quand le juge, le chef les a amenés à la délivrance, après quelques années de paix, eh bien, ils retournent aux idoles qui les environnent. Et on se dit, mais pourquoi? C'est stupide. Quand j'étais jeune, je me disais, mais enfin, qu'est-ce qu'ils avaient dans le crâne? Mais il faut se mettre un petit peu à leur place. Ils étaient entourés de gens qui vivaient comme ça. Et vous savez, la pression de l'environnement, c'est quelque chose, si on réfléchit un tout petit peu. Hein. Parfois, je dis à mes élèves, donc c'est pourtant que des cinquièmes, oseriez-vous venir à l'école sans vos sacro-saints jeans? Il n'y a pas beaucoup qui osent. Oseriez-vous changer de style de vêtements? Non. Oseriez-vous sortir avec des couleurs qui ne sont pas du tout à la mode? Non. Voilà. La pression, c'est des petits détails, ça n'a aucune importance. Mais ça montre bien qu'on est quand même très sensible à ce qui se vit autour de nous. Et ils n'étaient pas différents de nous, ils étaient très sensibles à la pression. Et c'est sûr que 15 ans, 20 ans comme ça, ils retombaient dans les habitudes. En plus, les Cananéens avaient l'habitude de faire des festins extraordinaires au moment où ils adoraient leur Dieu. Dans un pays où la nourriture était quand même difficile à obtenir, hein, ils n'allaient pas au supermarché, ces fêtes-là avaient beaucoup d'importance, et puis on finissait à boire plus qu'il n'en fallait, et à adorer les dieux, avoir toutes sortes de... Ils allaient jusqu'à se scarifier, vous savez, les groupes de hard rock, de heavy metal, etc., n'ont rien inventé. C'était déjà au temps des Cananéens, scarification et autres... Voilà. Donc, ils retombaient dans ce cycle plusieurs fois. Et donc, l'histoire de Déborah arrive à une période où, on va le lire, c'est dans Juges chapitre 4, « Les Israélites firent encore, ça veut tout dire, ce qui déplaisait au Seigneur. » La Bible est très sobre, elle ne donne pas beaucoup de détails. Ce qui déplaisait au Seigneur. Et où il était mort, c'est-à-dire le juge précédent. Le Seigneur les vendit alors à Yabin, roi de Canaan, alors Jabin, hein, dans d'autres traductions, qui régnait à Hatsor, donc c'est au nord d'Israël. Le général de son armée était Sisra, il habitait à Haroshet Goyim, au nord donc d'Israël. Les Israélites crièrent vers le Seigneur. Et voilà, deuxième étape. Car Jabin avait 900 chars de fer. Alors nous, ça nous semble peut-être un peu ridicule, mais à l'époque, une armée qui pouvait jouir de 900 chars de fer, c'était pas rien. Surtout quand on considère que les Israélites, eux, avaient très 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 peu d'armes. Parce que pour des raisons techniques, les forgerons étaient soit des nomades, soit les Cananéens, et il n'y avait pas énormément de forgerons au milieu du peuple. Ouais, vous voyez. Il opprimait avec violence les Israélites depuis 20 ans. Première étape. En ce temps-là, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Donc on a longuement parlé déjà dans les épisodes précédents de cette femme humble, simple, mais très puissante, puisque c'était elle qui dirigeait le peuple. Et oui, ça c'est incroyable. Hein, en Israël, plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, dans un peuple où les femmes n'avaient pas un rôle très important, il y avait une femme qui dirigeait le peuple. Surprenant, mais on a vu pourquoi. Son humilité, sa simplicité, son respect des hommes. Elle ne régnait pas par compétition, on a insisté là-dessus la dernière fois, mais simplement parce que Dieu l'avait appelée, point. Ce n'était pas dans un esprit de compétition. Elle était assise sous le palmier de Déborah, donc c'est après on l'a appelé le palmier de Déborah, évidemment, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Donc on est toujours plus ou moins... nord, centre-nord. Les Israélites montaient la voir pour le jugement. Donc elle avait tellement de discernement, de sagesse, que quand les gens avaient un problème, ils allaient la voir. Elle fit appeler Barak. Vous voyez, c'est très très résumé. La Bible est très sobre dans ces textes. Visiblement, Dieu lui a parlé. Et elle fait appeler un homme qu'elle, visiblement, elle connaissait bien. Barak, fils d'Abinoam de Kedesh Nephtali, toujours au nord. Et elle lui dit ceci. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, t'a donné cet ordre. Va et dirige-toi vers le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des fils de Nephtali et des fils de Zabulon. C'était les deux tribus du nord. J'attirerai vers toi à l'oued Kishon, donc c'est une toute petite rivière, Sisra, général de l'armée de Jabin, avec ses chars et sa multitude. C'est très rassurant. Va là-haut et je ferai monter toute une armée contre toi. Bien. J'aurais pas voulu être à sa place. Hein. Et je te le livrerai. Oui, bien sûr, mais Seigneur, si tu oublies le dernier bout là, qu'est-ce qui se passe? Tous ses chars et sa multitude. Barak lui dit, donc il répond au message de Déborah en disant, ok, je veux bien y aller, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Et on avait précisé les dernières fois que ce n'était pas de la lâcheté, parce que ce n'est pas une maman à côté de lui qui allait le rassurer devant 900 chars de fer, il ne faut peut-être pas exagérer, c'était simplement qu'il voulait s'assurer que Dieu était bien avec lui et que la femme qui était porteuse de la parole de Dieu l'accompagnait. Ce n'est pas de la lâcheté, ce serait trop bête, hein. Devant 900 chars de fer, qu'elle soit là ou pas, ce n'était pas tellement important. Mais il voulait s'assurer. Et ça rappelait la parole de Moïse, vous vous souvenez? Quand Dieu a appelé Moïse, il a répondu, « Si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. J'irai si tu viens, si ta présence va avec moi. » Et je crois que c'est un peu notre cas dans les difficultés, se rappeler qu'il y a des tas de moments dans notre vie où on dit à Dieu, « Si tu ne viens pas avec moi, je ne peux pas continuer. » C'est vrai. Et donc, elle répondit, « J'irai avec toi. » Mais tu n'auras pas d'honneur dans la voie où tu t'engages, car c'est à une femme que le Seigneur vendra Sisra. Alors on se demande tous si elle pensait à elle, ou si elle l'avait déjà reçu prophétiquement, que ce serait une autre femme qui aurait la victoire sur ce grand général. Puis Déborah alla avec Barak à Kedesh. Barak appela Zabulon et Nephtali, donc les deux tribus du nord à Kedesh. Une dizaine de milliers d'hommes montèrent sur ses pas. J'aime bien le petit... La Bible est sobre, mais quand même, elle a des petites indications. Point virgule, Déborah monta aussi avec lui. Entre parenthèses, on a insisté là-dessus la dernière fois, Déborah était courageuse. Elle n'était pas seulement simple, humble, et pas du tout dans un esprit de compétition, mais en plus, elle était courageuse. Moi, j'aurais pas trop voulu accompagner un général à la guerre, franchement. C'est pas mon style. Mais elle l'a fait, et bon, j'admire. Surtout que, je sais pas si vous vous rendez compte, les guerres à cette époque-là, c'était d'une cruauté. Enfin bon, c'est pas mieux maintenant, mais il n'y avait pas la Croix-Rouge. Hein. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et c'était épouvantable. Et elle est montée avec lui. Quel courage. Et quelle assurance dans la puissance de Dieu. Si elle est montée, c'est parce qu'elle était sûre qu'elle avait bien entendu. Parce que le problème que Dieu ait dit quelque chose, si on est sûr que c'est Dieu, ça va. Mais le problème, je trouve que pour nous chrétiens, parfois, c'est de se dire, est-ce que j'ai bien entendu ce qu'il m'a dit? Et ça, c'est plus dur, je trouve. Hein. Enfin, moi, je trouve ça plus dur. Si je suis certaine que c'est Dieu, pas de souci. Enfin, pas trop. Mais si je me dis, est-ce que j'ai bien entendu? Là, c'est un peu plus coriace. Et il fallait vraiment qu'elle soit sûre de bien avoir entendu pour l'accompagner et pour aller avec courage. Alors là, on a un petit passage un peu bizarre, mais on va peut-être le traiter après, parce que là, j'essaie de résumer assez rapidement. L'histoire de Déborah, pour moi, elle illustre magnifiquement un verset de la Bible qu'on va lire, parce que je le trouve très, très important. Souvent, je m'y réfère. Vous savez, tous les prédicateurs ont des marottes, et moi, j'en ai aussi, des choses que les pauvres paroissiens de cette église entendent régulièrement de ma bouche. Mais ils sont gentils, ils ne me le reprochent pas. 1 Corinthiens 1, 27. Regardez mes frères comment vous avez été appelés. Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Et c'est ce verset que j'aime beaucoup. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde. Après avoir vu la vidéo, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, de sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu, etc. Et ça, dans la Bible, on voit ça constamment, mais on le voit aussi dans la vie, que Dieu va choisir, regardez Jésus, commencer son règne en naissant dans une étable, non mais quand même. Et combien, si vous regardez Daniel, qui a été cet homme d'État extraordinaire chez les Perses, Daniel, chez les Babyloniens d'abord, chez les Perses à la fin, Daniel était un esclave, un jeune de 14-15 ans qui avait été arraché à sa famille, envoyé comme esclave. Il s'est devenu un homme d'État. Joseph, jeté dans le puits par ses frères, un petit garçon d'une famille nombreuse, assez fier de lui, qui a passé par toutes sortes de problèmes, qui est devenu le bras droit du pharaon. Et on voit ça régulièrement dans la Bible. Ce qui est faible, ce qui est vil, Dieu va non seulement le choisir, mais l'éduquer, le former, pour en faire quelque chose de précieux. Et ça, ça choque. Je me souviens, quand j'étais petite, il y a un truc qui m'avait vraiment frappée. Il passait souvent des gitans dans notre église à Armand. Et un gitan qui était passé, il parlait terriblement mal le français, on arrivait juste à le comprendre. Et Dieu avait utilisé cet homme pour amener au Seigneur un grand PDG du nord de la France, je sais plus qu'est-ce que c'était comme boîte, c'était genre Damar ou un truc comme ça, d'une très grosse boîte. Et je m'étais dit à l'époque, mais comment est-ce qu'il a pu faire? Parce que c'est pas la sagesse de Dieu qui touche le... C'est pas la sagesse des hommes qui touche le cœur. C'est la puissance de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Et Dieu prend ce qui... Parfois, il choisit ce qui est fou dans le monde. Et franchement, moi, je serais pas allée envoyer ce gitan évangéliser un PDG. Il avait même été reçu à l'Élysée. D'ailleurs, je sais plus à quelle occasion. Il avait témoigné. Mais je me disais, mais c'est pas possible. Parce qu'il avait quelque chose dans le cœur que les gens voyaient. Et que... Même des hommes d'État étaient capables de voir. Pourtant, Dieu sait qu'ils peuvent être aveugles parfois. Mais... Je suis gentille quand même. Et c'est ça qui est important. Dieu se sert de ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Une autre traduction dit pour confondre les sages. Et ça, on va le voir régulièrement. Et c'est un peu ce qu'on voit dans l'histoire, dans notre histoire de Déborah. Je pense aussi au psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Et il y a une autre version qui dit, avec Dieu, nous déploierons nos forces. Même si on se sent faible. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Alors surtout, pour ceux qui n'étaient pas là les premières fois, je précise, ces histoires de l'Ancien Testament sont un peu gore. Il y a beaucoup de sang, beaucoup d'ennemis écrasés. Faut se remettre, oui, 3000 ans en arrière. Et l'apôtre Paul dit, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Il ne s'agit pas d'aller écraser votre voisin. Il s'agit de comprendre que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Il y a des leçons à tirer, des leçons de vie qui sont extrêmement précieuses dans notre quotidien. Et il y a une troisième chose aussi que l'histoire de Déborah, à laquelle l'histoire de Déborah me fait souvent penser, c'est un vieux cantique anglais qui a été traduit tant bien que mal en français, qui dit en anglais « Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus ». Crois, obéis, car il n'y a pas d'autre moyen d'être heureux en Jésus. C'est détestable ça, hein? Honnêtement, allez, soyez honnêtes. Quel programme? Crois, obéis. Crois, c'est déjà pas facile, mais alors obéir, n'en parlons pas, on est français en plus, hein? Non mais oh! Crois, obéis, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être heureux en Jésus, mais que de croire et obéir. Je me souviens, la première fois que je suis allée en Angleterre, j'avais 16 ans, j'étais allée faire des missions sur les plages, avec la Ligue pour la lecture de la Bible, et ce cantique, partout où j'allais, je le retrouvais. Et franchement, parfois, ça m'irritait. C'est pas compliqué, crois et obéis. Oui, et pourtant, c'est vrai. Alors, on a affaire là à un peuple qui est complètement affaibli, peu armé, opprimé depuis 20 ans. On résume. Et on peut se poser la question, puisque ça doit nous servir d'exemple, est-ce que parfois dans votre vie, vous ne vous sentez pas affaibli? Est-ce que vous n'avez pas laissé des ennemis vous envahir? Alors, quel genre d'ennemis? C'est plus les Cananéens, c'est pas les Français non plus, mais des ennemis intérieurs, du défaitisme, de la dépression, de l'amertume parfois, des regrets, qu'ils soient justifiés ou non, de la colère, justifiée ou non d'ailleurs, hein, ça ne fait pas beaucoup de différence, de la jalousie, toutes sortes de passions, des idoles ou des addictions de toutes sortes, hein, et parfois on dit « oh ben moi je ne peux pas m'en empêcher ». Ça n'a pas lieu d'être en face de Jésus. Je ne peux pas m'en empêcher, il n'entend pas ce genre de choses. Des pensées négatives, des mensonges sur nous-mêmes ou sur les autres. Elsa, quand elle était venue, nous avait parlé des mensonges qu'on croit sur soi-même. Oh, je suis pas ceci, ou je suis trop cela, ou je suis pas assez ceci, ou je suis pas assez cela. Des mensonges qui bouffent notre vie complètement. Tout ça, c'est des ennemis intérieurs qui nous détruisent. Alors, si c'est le cas, si vous avez laissé, et je crois qu'on l'a tous fait, hein, si vous avez laissé des ennemis vous envahir comme ça, vous pouvez vous identifier au peuple d'Israël. Dévoré par des ennemis intérieurs, eux c'était extérieur, bien que ça devenait intérieur puisqu'ils finissaient par adorer les idoles. Peut-être aussi vous vous considérez comme Israël, pas armé, pas équipé. Je ne crois pas que Alexandra et son mari se considèrent équipés pour faire face à des petits triplés sous des incubateurs. Vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile. Et parfois on se dit, mais je suis pas équipée. J'ai pas les armes. J'ai pas ce qu'il faut pour faire face. Pas ce qu'il faut pour réussir dans la vie parfois. Hein. Pas assez de diplômes, pas assez d'argent, pas de famille qui soutient, pas d'amis. Mais dans tous ces cas-là, Dieu a un chemin. J'aime beaucoup. On avait mis, il faudrait qu'on la remette, cette bannière qui disait Dieu, God made a way. Il a tracé un chemin, quoi qu'il en soit. Et on voyait cette faille dans la terre et la croix qui faisait un petit pont au-dessus. J'aimais beaucoup cette bannière, il faudrait qu'on la remette. Dieu a un chemin, il a une solution. Même si nous, on ne se considère pas équipés. Ce n'est pas très grave. Lui, il est équipé. Deuxième point, c'est une femme qui dirige le pays. Comme j'ai dit, à cette époque, dans cette culture, c'était quand même assez exceptionnel. Et surtout que normalement, elles n'étaient pas considérées à ce point. Hein. Fille ou garçon, ado ou adulte, vous pouvez vous sentir peut-être méprisée, rejetée, déconsidérée par vos parents, par vos profs. Ah, les profs, c'est une race à part. Marie-France n'est pas là. Charles non plus. c'est vrai, ils peuvent faire beaucoup de mal hein, avec une parole de travers. Ils ne se rendent pas toujours compte. On ignore, on méprise un enfant. On le met dans un cadre. Celui-là, il est ceci, il est cela. On le colle dans un tiroir. Et puis, toute sa vie, il va porter ça. Hein. Je me souviens d'une chrétienne très chouette. On n'arrivait jamais à lui faire écrire un texte. Et elle était... Enfin, franchement, elle était intelligente. Et un jour, j'ai découvert pourquoi. Un prof, un jour, avait lu sa rédaction. Je crois que c'était en troisième. Quatrième ou troisième, avait lu sa rédaction devant tout le monde et avait rigolé, s'était moqué de ce qu'elle avait écrit. Elle ne pouvait plus. Hein. Et elle pensait qu'elle était bête, ce n'est pas vrai du tout. Elle était douée même, hein, comme fille. Vous voyez, hein, on peut faire du mal et on peut après se sentir complètement méprisé, déconsidéré, parents, profs, amis, parfois c'est même des médecins, des patrons. Mais si vous êtes dans un cas comme ça, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il a su mettre une femme à la tête d'un peuple qui était assez misogyne, il faut reconnaître. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et c'est l'obéissance et la fidélité qui vont mener à la victoire. Trust and obey. Fais confiance, obéis. Le chef de l'armée, ben il n'est pas très sûr de lui, hein, parce qu'il lui faut la présence de Dieu avec lui. Il sent qu'il n'est pas forcément à la hauteur. Lever 10 000 hommes, c'était déjà bien, moi je l'admire. Il fallait le faire. Mais visiblement, il n'était pas sûr de lui. Et peut-être nous aussi, parfois, on doute de l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu m'aime? Finalement, je traverse de telles difficultés. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce qu'il marche à côté de moi ou pas? Parfois, on doute de la présence de Dieu. Mais il y a une chose qui est sûre. Dieu ne nous abandonnera jamais. Il va même jusqu'à dire quand même, ton père et ta mère t'abandonneraient. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Quand même, une mère qui allait t'abandonnerait son enfant. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Et je crois qu'on est tous appelés par Dieu à quelque chose. Tous. Et c'est dommage parfois de passer à côté. Donc, rassurez-vous, vous êtes appelés par Dieu à quelque chose. Même si vous n'êtes pas sûr de vos capacités. Oh, mais je ne suis qu'un enfant. Moi, je ne suis qu'en cinquième, je ne suis qu'en quatrième, je suis en troisième. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Mais si, absolument. Il y a des enfants qui ont révolutionné le monde. Par leur attitude, des enfants qui ont transformé leur famille, par leur attitude. Je cherchais hier des témoignages, mais je sais que j'aurais pas trop le temps, mais vous vous souvenez de ce petit témoignage de ce petit esclave africain, Sami, il s'appelait, c'était foudroyant, comment cet esclave qui avait été battu déjà dans son pays, qui avait été malheureux, il est parti aux États-Unis, et comment arriver aux États-Unis, c'était en 1850, je crois, quelque chose comme ça. Dès les premières fois où il a témoigné, il a eu des auditoires aux États-Unis, qui à l'époque était encore pas mal raciste, a eu des auditoires phénoménaux de gens qui venaient au Seigneur, qui pleuraient sur leurs péchés. Tellement ce jeune garçon était rempli du Saint-Esprit. Il avait peut-être 16, 17 ans. Vous savez que sans Dieu, vous n'arrivez à rien ? Eh bien, c'est très bien. C'est très bien. Parce que c'est vrai, sans Dieu, on n'arrivera pas. Mais avec Dieu, on fera des exploits, c'est ce que dit la parole de Dieu. Donc, on peut s'identifier à cette histoire. On va reprendre, ça résume un petit peu tout ce qu'on a dit, je crois. On va reprendre donc au verset 11. Héber, le Caïnite, s'était séparé de Caïn, des fils de Ab, beau-père de Moïse. Donc, c'était une tribu. Et il était allé jusqu'au Térébinthe qui est à Tsanaïm, près de Kédesh, pour y dresser sa tente. C'est-à-dire une tribu de nomades qui s'était installée pas très loin du lieu de la bataille. Alors, vous savez, la Bible, comme je vous dis, elle est très sobre. Hein. On se demande, c'est là comme un cheveu sur la soupe, d'un seul coup, qu'est-ce que ça vient faire là ? On va voir après pourquoi. On informa Sisra, donc le général, que Barak, fils d'Abinoam, était monté au mont Tabor. Donc c'est une montagne nord-est. Depuis Aroshet Goïm, Sisra appela au Kishon, donc à la petite oued, à la petite rivière, tous ses chars, 900 chars de fer et tous les hommes qui étaient avec lui. Donc vous imaginez le spectacle. Les 10 000 hommes sont avec Barak sur le mont Tabor, puis en bas, dans la plaine, 900 chars de fer et une multitude de soldats. Bien armé, exercé au combat, sur la colline, avec notre pauvre Barak, quelques 10 000 hommes, très peu armés, remplis de foi, on espère. Et Sisra s'installe en bas, ils attendent, et là, Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car c'est aujourd'hui que le Seigneur t'a livré Sisra. » Moi, je ne sais pas ce qu'il a dû ressentir, Barak, mais quand il regardait du haut de la montagne, qu'il y avait cette multitude, ces chars, etc. C'est aujourd'hui que Dieu t'a livré Sisra. Ouais, espérons-le. Mais il y est allé, hein. C'est le Seigneur lui-même qui se met en campagne devant toi. Barak descendit donc du mont Tabor. Il était obéissant, hein. Trust and obey, crois, obéis. Il a cru ce qu'avait dit une femme. Et il a obéi. Moi, je l'admire, hein, le Barak, là. Barak descendit donc du mont Tabor avec 10 000 hommes derrière lui. Le Seigneur frappa de panique Sisra, tous ses chars, toutes ses troupes. Ils furent passés au fil de l'épée, ça c'est l'épisode gore, devant Barak. Sisra descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et les troupes jusqu'à Aroshet Goïm. Toutes les troupes de Sisra tombèrent au fil de l'épée, il n'en resta pas un seul. Sisra s'enfuit à pied vers la tente de Yaël, femme de Héber le Caïnite, car il y avait la paix, donc entre cette fameuse tribu dont on vient de parler, entre Jabin, roi de Hatsor, et la maison de Héber le Caïnite. Yaël sortit à la rencontre de Sisra et lui dit « Entre, mon seigneur, entre chez moi, n'aie pas peur. » Il entra chez elle dans la tente et elle le recouvrit d'une couverture. On va le lire en entier, on fera les commentaires après. Il lui dit « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre-allée, lui donna à boire et le recouvrit. Il lui dit encore « Tiens-toi à l'entrée de la tente. Si quelqu'un vient te demander « Y a-t-il quelqu'un ici ?» tu répondras non. Yaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit le marteau. Ça, mes élèves, ils aiment ce passage. S'approcha de lui furtivement et lui planta le pieu dans la tempe. Il pénétra dans la terre. Il était profondément endormi, accablé de fatigue. C'est ainsi qu'il mourut. Comme Barak poursuivait Sisra, Yaël sortit à sa rencontre et lui dit « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, Sisra gisait mort, le pieu dans la tempe. En ce jour-là, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant l'Israélite. Les Israélites intensifièrent leur pression contre Jabin, roi de Canaan. Vous voyez, c'est l'inverse maintenant. Jusqu'à ce qu'il soit retranché, Jabin, roi de Canaan. Jusqu'à ce qu'ils aient retranché Jabin, roi de Canaan. Donc l'armée est en déroute. Sisra va s'enfuir à pied. C'est la honte pour un si grand général. Alors, on avait parlé de cette bataille. Là, on n'a pas de détails. Vous voyez, comme la Bible, parfois, ne donne pas de détails. On se demande, mais pourquoi ? Comment est-ce qu'ils ont eu la victoire ? Miracle absolu, complet ? Non, pas exactement. C'était un miracle, oui, mais pas la poudre de perlimpinpin. C'était la bonne saison pour faire la guerre. Sec. Vous savez, quand c'est sec, les chars, ils roulent bien. Hein. C'est pas du béton, hein, les champs de bataille. Hein. C'était la terre. Et Dieu savait ce qu'il faisait quand il leur a dit de faire la bataille le long de l'oued. Alors, ceux qui ont vécu en Afrique du Nord ou dans des régions plus ou moins désertiques savent qu'un oued, s'il y a une grosse pluie d'orage, en une demi-heure, j'ai lu, hein, 30 minutes, c'est ingérable. Ça devient une inondation générale et une puissance. L'eau atteint un tel niveau de puissance qu'il emporte tout sur son passage. Et Dieu savait. Mais normalement, ce n'était pas la saison des pluies, ça n'aurait pas dû arriver. Et il est là le miracle. Quand Dieu dit, la chose arrive. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'oued a gonflé. Et ce qui faisait la force des ennemis, leur char, encore une fois, on retrouve ce principe. Ce qui faisait la force des ennemis va devenir leur point de faiblesse. Aller faire rouler 900 chars dans 10 cm de flotte, c'est même pas la peine de rêver. Ils s'enfonçaient dans la boue et c'était terminé. Eh ouais. Et c'est un phénomène tout simple. Il paraît qu'il est arrivé exactement à la même chose à une armée qui avait fait la guerre. Enfin, c'est Napoléon qui avait fait la guerre. La même chose est arrivée. Et c'est très rapide. Hein. En 30 minutes, le champ de bataille était inondé. Les chevaux n'arrivaient plus à tirer leurs pattes de la boue. Et c'était terminé. Ce qui faisait leur force est devenu leur faiblesse. Ce qui était la faiblesse d'une armée sous-équipée est devenu leur force. Parce qu'ils comptaient sur Dieu. Sisra donc va s'enfuir à pied. C'est la honte pour un si grand général. Il en est réduit à courir dans la bouillasse, hein, pour sauver sa vie. C'est quand même un peu gros. Et il va arriver dans un campement de Kenyans. Donc c'est nomades dont on a parlé. Et il est malin. C'était un drôle de zèbre, cet homme, parce que le chant de Déborah va le décrire comme un violeur, quelqu'un d'épouvantable. Et il va choisir la tente d'une femme. Il sait ce qu'il fait. Il va essayer de rentrer dans la tente d'une femme. Alors pourquoi ? Là, il faut savoir un petit peu qu'à cette époque, il était formellement interdit à un homme de rentrer dans la tente d'une femme. Donc les tentes étaient assez grandes et il y avait la tente de la femme était à l'intérieur. Et seulement le mari pouvait rentrer dans cette tente. Et il savait ce qu'il faisait. Il savait que s'il se cachait dans la tente d'une femme, personne ne viendrait le chercher. Personne n'oserait. Pourquoi ? Parce que c'était peine de mort pour quiconque rentrerait dans la tente d'une femme et peine de mort pour la femme qui le laisserait entrer. Ce qui explique l'attitude de Yaël. Dans tous les cas, elle allait avoir des problèmes. Si on découvrait cet homme endormi dans son lit, elle serait passée à la peine de mort. C'était la loi des nomades. Et il fallait bien qu'elle fasse quelque chose. Et rester devant sa tante à dire « il n'y a personne », elle savait très bien que c'était hors de question. De toute façon, elle aurait un problème. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, il savait ce qu'il faisait en lui disant « mets-toi devant la tante et dis qu'il n'y a personne ». Et elle va agir avec beaucoup d'intelligence. Elle sort à sa rencontre, elle le laisse rentrer. Donc apparemment, la tante, il y a la grande tante et la tante de la femme à l'intérieur, si j'ai bien compris la disposition. Et elle le laisse rentrer, elle sait très bien qu'elle ne peut rien faire. Il est armé, elle ne peut pas lutter, visiblement il n'y a personne autour. Donc elle ne bouge pas, il demande de l'eau, et la Bible dit qu'elle va lui donner du lait. C'est pas par gentillesse, elle est maline. J'ai lu que le lait, évidemment ce n'était pas du lait gardé au frigo, c'était ce qu'on appelle le leben. Et c'était assez fortement soporifique. C'est du lait un peu tourné, un peu caillé, un truc que je trouve horrible, mais qu'apparemment on aime bien dans le désert. Et c'est assez soporifique. Donc elle lui donne du lait. Il est déjà épuisé, il a couru dans la boue et avec beaucoup d'angoisse. Il lui donne ses ordres, il ne manque pas quand même d'aplomb. Tiens-toi à l'entrée, si on te demande « y a-t-il quelqu'un ?», tu répondras non. Il se croit parfaitement en sécurité. Et Jaël savait faire une chose. Vous savez que les femmes de nomades, c'était elles qui plantaient les tentes. C'était leur attribution, en plus de la cuisine et des enfants. C'est elles qui plantaient la tente. Donc, elles savaient très bien manier le marteau et les piquets pour planter la tente. Ça ne devait pas être évident, hein, parce que ce n'était pas du trigano. C'était quand même des tissus tissés très lourds, soit des peaux de bêtes. Donc c'était un drôle de boulot quand même, il fallait qu'elle soit forte. Et elle savait manier le marteau et le pieu avec dextérité, et ça c'est important à remarquer. Elle va utiliser ce qu'elle a pour tuer le tyran, qui lui faisait risquer sa propre vie. Et curieusement, la Bible va la déclarer bénie entre toutes les femmes. Il y en a deux dans la Bible qui sont déclarées bénies entre toutes les femmes, Jaël et Marie. Alors ça choque, hein, parce que c'est quand même gore ce qu'elle a fait, je veux dire, par rapport aux lois d'hospitalité et tout, c'est un peu embêtant. Mais il faut comprendre l'arrière-plan, peine de mort pour qui accueille un homme dans sa tente. Donc on peut comprendre aussi. Et elle va être vraiment l'instrument utilisé par Dieu, un instrument totalement inattendu. Non seulement c'est une femme, mais c'est une étrangère. Elle n'est pas du peuple juif. Et c'est elle qui va accomplir la prophétie. Encore une fois, les choses folles du monde qui confondent les fortes. C'est même pas une juive, c'est même pas une femme des Hébreux. Et c'est elle que Dieu va utiliser. Alors Jaël a plusieurs qualités. D'abord, elle est courageuse. Elle voit ce soldat furieux, épuisé, rentrer. Elle réfléchit, elle utilise sa tête. Et elle est très intelligente. Elle lui donne ce fameux Leben bien soporifique. Elle utilise ce qu'elle a. Et je crois que c'est une leçon pour nous. Elle ne s'assied pas pour réfléchir à ce que d'autres pourraient faire à sa place. À quelle arme je pourrais utiliser? Où est-ce que je pourrais trouver une arme assez légère pour... Non. Pour tuer Sisera. Elle prend ce qu'elle a et elle fait ce qu'elle sait faire. Puis elle sort à la rencontre de Barak qui arrive et qui cherche son ennemi. Et je crois que c'est une leçon pour nous. On met de côté un peu le côté un peu sanglant. Faire ce qu'on sait faire avec ce qu'on a. Moi, j'admire cette femme parce que je crois que moi, j'aurais cherché à qui je pourrais demander de l'aide. Non, elle est le dos au mur, elle risque sa vie. Qu'est-ce que j'ai entre les mains? Qu'est-ce que j'ai entre les mains? Je sais me servir du marteau, je sais me servir des piquets. Je fais ce que je sais faire, j'ai la force pour le faire, j'ai l'habitude, et bien je le fais. Et combien de fois dans la vie courante, mais aussi dans la vie de l'Église, on voit des hommes et des femmes qui refusent de faire ce qu'ils savent faire. Alors pourquoi, on peut se poser la question? Parce qu'on veut faire autre chose, parce qu'on veut être quelqu'un d'autre, parce que l'herbe est plus verte dans le champ d'à côté. Parce que parfois, peut-être, on méprise les petits commencements. On se dit, oh, je ne sais pas faire grand-chose. Mais faire ce qu'on sait faire avec ce que Dieu nous a donné, c'est quelquefois un bon début. Bien qu'il soit bon de chercher, je ne suis pas contre, le fait de chercher à s'améliorer, à s'instruire, à se former davantage. Ça, je pense que vous comprenez bien que c'est pas dans ce sens-là que je veux aller. Mais faire ce que je sais faire avec les outils que Dieu m'a donnés, c'est un bon début. Et Jésus dira dans la parabole des talents, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Faisons déjà ce qu'on sait faire avec ce qu'on a. Et même si on a 10 ans, 12 ans, 15 ans, faisons déjà ce qu'on sait faire. À l'école, envers les profs, envers les parents, à la maison, on peut faire des tas de choses. On peut faire des tas de choses. Faisons déjà ce qu'on sait faire avec ce qu'on a. Et on sera dans l'abondance. Bénie entre toutes les femmes parce qu'elle a accompli la volonté de Dieu avec ses faibles moyens. Encore une fois, Dieu choisit les choses faibles et les gens faibles pour confondre les forts. Et il ne s'agit pas de dire « je ne peux pas, je suis trop ceci ou je ne suis pas assez cela ». La clé, c'est toujours obéissons, faisons ce que nous pouvons avec ce que nous avons et Dieu fera le reste. Enfin, on va conclure l'histoire de Déborah avec le chant qu'elle a composé et qu'elle chante avec Barak. Elle partage avec lui la victoire. Et il est très surprenant, quelqu'un m'a dit, oula, il est difficile, c'est vrai qu'il est difficile. Il a été difficile aussi pour les traducteurs, donc si vous avez différentes traductions, vous avez des versets qui sont complètement différents, parce qu'il paraît que c'est écrit en très vieil hébreu, d'où l'authenticité du texte. Et parfois ce sont des mots qu'on ne retrouve pas ailleurs, et il y a des phrases entières qui sont très difficiles à traduire. Par exemple, elle commence en disant « Quand on défait sa chevelure en Israël, quand un peuple se porte volontaire, bénissez le Seigneur. » Qu'est-ce qu'elle veut dire? Apparemment, quand les chefs partaient à la guerre, souvent ils avaient fait un vœu. Ils s'étaient laissés pousser les cheveux comme les Nazaréens. Et quand ils défaisaient les cheveux, c'était une sorte de signe que ça y est, on part à la guerre et on n'a pas peur. Voilà, vous voyez, si on ne connaît pas les symboles, on dit toujours aux enfants en cinquième, quand on fait la culture biblique, vous avez vos symboles, là, le petit arrobas, le signe stop, sens interdit, ça, c'est les symboles modernes. Eh bien, à cette époque-là, il y avait des symboles. Alors, le problème, c'est qu'on perd le contact avec ces vieux symboles. Donc, défaire sa chevelure, c'était, je pars à la guerre, j'y vais. Quand un peuple se porte volontaire. Voilà. Je vais résumer rapidement le chant. D'abord, on remarque que ce chant est complètement centré sur Dieu. Elle est complètement centrée sur Dieu et sur le peuple de Dieu. Elle donne gloire et honneur à Dieu et elle se réjouit de ce que le peuple accepte de collaborer avec son Dieu. Ça fait réfléchir. Dieu pourrait faire les choses tout seul. Mais il demande qu'on collabore avec lui. Souvent, il y a des gens qui disent « Mais pourquoi il faut prier comme ça tout le temps ? Dieu, il sait !» Eh oui. Mais il l'a demandé. Crois, obéis. Il a demandé qu'on prie. Pourquoi est-ce qu'il faut intercéder pour l'un, pour l'autre ? Dieu sait. Mais il a dit « Priez les uns pour les autres. » On obéit. Il veut qu'on collabore. Dieu est un Dieu de relation. Il veut une relation avec nous. Elle est centrée sur Dieu, sur le peuple qui s'engage. Et ça, c'est très beau. Parce qu'elle dit à un endroit, « Mon cœur est avec ceux qui s'engagent dans la bataille. » Vous voyez, c'est important, ce côté collaboration avec Dieu. Elle donne entièrement gloire à l'action spectaculaire de Dieu qui utilise les gens et les éléments naturels. Elle parle pas d'elle, sauf pour dire, « Je me suis levée jusqu'à ce que tu te lèves, Déborah, comme une mère en Israël. » C'est le seul endroit où elle va parler d'elle. Alors, un point qui ressort dans le cantique de Déborah, justement, c'est l'engagement des tribus. Alors, vous avez Éphraïm, Benjamin, Makir, c'est-à-dire une partie de Manassé, Zabulon, Issachar, elle les considère comme des braves héros, des commandants. On va juste lire rapidement. Mon cœur, verset 9, va aux commandants d'Israël, aux gens du peuple qui se sont portés volontaires. Bénissez le Seigneur. Et je trouve que c'est important pour nous dans l'Église, parce qu'on est tous volontaires. Dans cette église, en plus, il n'y a pas de salariés, donc on est tous volontaires. Et mon cœur va aux commandants d'Israël, aux gens du peuple qui se sont portés volontaires. Bénissez le Seigneur. Et elle passe du temps là-dessus, et elle parle de la solidarité entre les tribus. Alors là, c'est un petit peu dur. Vous allez voir. Le peuple du Seigneur est descendu, verset 13, à la rencontre des héros, d'Éphraïm. La racine même est en Amalek. Derrière toi, Benjamin est parmi les troupes. De Makir, les commandants sont descendus. De Zabulon, elle cite hein, tous ceux qui sont venus à la guerre. Les princes d'Issachar sont avec Déborah. Issachar tient pour Barak. Il a été envoyé sur ses pas dans la vallée. Et là, un passage assez rigolo. Près des ruisseaux de Ruben, donc Ruben, c'est une autre tribu, hein. Grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté entre les parcs à écouter le sifflement des bergers. Alors voilà, il faut avoir un petit peu d'imagination, c'est de la poésie. Hein. Près des ruisseaux de Ruben, vous voyez le paysage, les belles collines avec des belles prairies, des ruisseaux, les résolutions du cœur. Alors il y a d'autres traductions qui disent les délibérations sans fin. Ah, dans la tribu de Ruben, on a causé. Et si on y allait? Et si on les aidait? Et si on n'y va pas? Et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ont causé. Et j'aime bien, grandes furent les résolutions du cœur, mais ce n'est pas aller plus loin. Pourquoi es-tu resté entre les parcs à écouter les sifflements des bergers ? T'imaginez la tribu de Ruben dans l'herbe, écouter les sifflements des bergers. Auprès des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur, deux fois. Ça fait mauvais effet, hein ? Vous, vous n'êtes pas embêtés, les gars de Ruben, vous êtes restés près de vos moutons, vous avez causé, vous avez parlé de venir aider. Mais vous n'en avez rien fait. Ça a fait un petit pincement de cœur. Combien de fois on a tous fait ça, hein? On a parlé de faire quelque chose. Oh oui, Seigneur, je ferai ceci, je ferai bien cela. Puis on ne l'a pas fait. On l'a tous fait. Hein? Et alors, je vous fais remarquer quand même qu'il n'y a pas de jugement méchant. Elle se contente de dire, grande sur les résolutions du cœur, vous avez beaucoup discuté. Mais c'est tout. Galaad est resté en Transjordanie. Bon, lui, pareil. Dan, pourquoi séjourne-t-il près des bateaux ? Il est resté près de ses ports, près de ses bateaux, à faire son commerce. Tribu de Dan. Azer est assis au bord de la mer. Il est resté auprès de ses brisants. Toujours très poétique. Mais et toute cette tribu-là, elle est restée au bord de l'eau. Elle est restée à écouter le bruit des flots. C'est joli, hein ? Mais les autres, ils étaient à la guerre pendant ce temps-là. Ils risquaient leur vie. Zabulon est un peuple qui a affronté la mort. Et Nephtali de même sur les hauteurs de la campagne. Et ça fait réfléchir les hésitations sans fin de Ruben qui délibère, qui réfléchit, qui discute. Ceux qui restent avec leurs moutons dans un pays riche, ne devraient pas s'embêter avec les tribus du Nord qui avaient la guerre. Ils ne souffrent pas de l'oppression, ceux-là, donc ils hésitent à aller aider les autres. Et un critique a fait remarquer que la solidarité entre les 12 tribus diminuait dans la mesure où les alliances avec les peuples voisins augmentaient. Pourquoi est-ce qu'ils restaient auprès de leurs bateaux ? Parce qu'ils commerçaient avec les gens de Canaan. Ils avaient autre chose à faire. Pourquoi ils restaient auprès de leurs moutons ? Parce que bah, c'était une ressource, hein, pour commercer aussi avec les autres. Plus ils faisaient alliance, plus ils faisaient de compromis avec les Cananéens, moins il y avait d'unité. Et je me suis posé la question, est-ce que dans les églises chrétiennes, je parle au pluriel parce que c'est dans toutes les églises, l'unité ne dépend pas du degré de compromis qu'on fait avec le monde. Quand on fait des compromis avec le monde, ça devient de plus en plus difficile de garder l'unité entre les églises, entre les chrétiens. Ça fait réfléchir. La solidarité entre tribus dépendait des alliances avec les peuples voisins. S'ils faisaient beaucoup d'alliances avec les peuples cananéens, la solidarité diminuait. On reste près des bateaux, on reste dans son confort, bien installé dans son égoïsme. Et je me souviendrai toujours de ce que mon pasteur disait. Il avait toujours des histoires un peu piquantes. Et il parlait de la réunion de prière. Et il parlait d'un couple qui avait eu un enfant gravement blessé. Je ne sais plus, c'était un accident d'auto. Et à dire, ce soir-là, ils sont venus à la réunion de prière. Et toute l'église a prié. L'enfant a été sauvé, a été guéri. Et ce cher monsieur Copin disait, imaginez que chacun soit resté à regarder la télé ce soir-là. Qui aurait prié avec eux ? Si les autres avaient fait ce qu'eux, ils faisaient d'habitude. Ça nous faisait réfléchir. C'est resté dans ma tête, ça. Hein, si ce soir-là, quand ils sont venus avec toute leur détresse, les autres avaient fait ce qu'eux, ils faisaient d'habitude, c'est-à-dire étaient restés devant la télé ou étaient allés se coucher, dans le meilleur des cas. Est-ce qu'ils auraient trouvé des gens pour prier avec eux ? Non, c'est parce qu'il y a des gens qui étaient fidèles dans l'alliance, fidèle dans la bagarre, que quand ils ont eu un problème, eux, ils ont pu trouver des gens pour prier avec eux. Et donc, il nous disait, réfléchissez-y. Vous êtes là pour les autres quand vous priez, mais le jour où quelqu'un a besoin de la prière, il est content de trouver des gens dans l'église. Donc, pensez-y aux réunions de prière. Donc, il nous avait secoué les puces avec ça, mais c'est resté dans ma tête. Et c'est un peu le cas des tribus. Ils sont restés dans leur égoïsme, dans leur confort. Et puis la bataille qui avait lieu au nord d'Israël, bon, allez. Alors qu'il y avait eu un engagement, hein, au moment de la mort de Josué, de toujours s'entraider. On va terminer avec toute la gloire qui est rendue à l'action spectaculaire de Dieu, qui va utiliser les gens et les éléments. Et ça, dans son cantique, c'est assez impressionnant. Les rois sont venus, ils ont combattu. Ils n'ont tiré aucun gain d'argent. Du ciel, les étoiles ont combattu, de leur route, c'est poétique, hein. Elles ont combattu Sisra, le Kishon, donc cette petite rivière, les a balayés. Les sabots des chevaux ont retenti, etc. Maudissez ceux qui ne sont pas venus au secours du Seigneur, ça c'est très fort. Méroz apparemment était, alors j'ai cherché à comprendre qui était Méroz, maudissez Méroz, dit le messager du Seigneur, c'était apparemment une ville qui était pratiquement sur les lieux de la bataille et qui au lieu de venir aider, s'est calfeutré chez elle et a refusé de venir aider alors qu'ils étaient vraiment tout proches. Ils ne sont pas venus au secours du Seigneur parmi les héros. Et ça m'a fait réfléchir. Quand Dieu nous demande, et là je pense que moi je le suis, on est tous fautifs parfois, quand Dieu nous demande de prier pour quelqu'un, quand Dieu nous demande de parler à quelqu'un, d'encourager quelqu'un, de venir au secours de l'Éternel, entre guillemets, et qu'on ne le fait pas. Et on a tous vécu ça. On est sous une sorte de malédiction. Alors, ne dramatisons pas. On n'est pas maudit. Je veux dire, on n'est pas béni. On passe plutôt, voilà, on passe à côté d'une bénédiction. Et ça m'a fait réfléchir. Parfois, Dieu dit, va parler à un tel, va encourager un tel, prie pour un tel. Puis oui, je le ferai tout à l'heure, dans le meilleur des cas. Et puis, ben voilà, le temps passe, on ne le fait pas. Parfois, vous savez, dans la journée, ça vous est jamais arrivé, tout d'un coup, pensez à quelqu'un. Et vous sentez qu'il faut prier pour cette personne. Et chaque fois qu'on l'a fait, on a su que c'était bien tombé. Hein. Là, je crois qu'on a tous fait cette expérience. Puis parfois, on ne le fait pas. Et on passe à côté d'une bénédiction. Donc, Ne dramatisons pas, hein, c'est pas une malédiction, on loupe une bénédiction. Après, il y a un petit retour en arrière qui est intéressant. On va juste le lire rapidement. Elle parle du passé. Vous voyez, dans son cantique, elle se centre sur Dieu, sur ce qu'il a fait, et elle fait un petit retour en arrière sur ce qui se passait dans le pays d'Israël. Au jour de Shamgar, fils d'Anath, au jour de Yaël, les sentiers étaient abandonnés et les voyageurs prenaient des sentiers détournés. Vous imaginez un pays où on n'ose plus se promener sur les routes. Les villes ouvertes avaient disparu. S'il n'y avait pas de remparts, les villes étaient rasées. Jusqu'à ce que tu te lèves, Déborah, comme une mère en Israël. On avait choisi de nouveaux dieux. Alors, c'est clair la conséquence. On avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes des villes. Chaque fois que dans nos vies, on choisit de nouveaux dieux, qu'on a des mauvaises priorités, la guerre est aux portes de la ville. La guerre à l'intérieur de notre cœur, dans notre tête, chaque fois qu'on choisit des mauvaises priorités. On avait choisi de nouveaux dieux, j'aime beaucoup cette phrase, alors la guerre était aux portes de la ville. Voyez ce que ça veut dire pour notre vie à nous. Voyait-on un bouclier, une lance pour 40 fratries en Israël? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas d'armes. S'il y avait un bouclier, une lance pour 40 familles, c'était déjà beau. Vous voyez, ça devait être drôle pour faire la guerre contre 10 000 hommes et 900 chars. Entre 10 000 hommes et 900 chars. C'était pas évident. Hein. S'il y avait un bouclier, une lance pour 40 fratries, ça ne fait pas beaucoup. Hein. Ils n'étaient pas équipés. Qu'est-ce qui nous empêche d'être équipés, nous, chrétiens? Vous avez tous lu Éphésiens 6. Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on combat, mais mettez le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, etc., la ceinture de la vérité, les chaussures du zèle. Parfois, je me dis, mais est-ce qu'on les a? Alors, il y a des chrétiens qui sont très systématiques. Hein, tous les matins, quand ils prient, « Seigneur, je revais le casque du salut, le bouclier de la foi. » Mais c'est bien si ça parle, peut-être qu'on devrait le faire. Mais combien de fois on pourrait dire, dans les églises, est-ce qu'on voit un bouclier, une lance pour 40 familles? Est-ce qu'on est équipé? Est-ce qu'on est équipé? Ça m'a posé la question. Du coup, il y a l'insécurité sur les routes. Et j'aime bien ce verset qui dit « On prenait des sentiers détournés. » On ne peut même plus prendre des sentiers droits. Ça va tellement mal qu'on est obligé de prendre des sentiers détournés. Puis après, elle va faire un tout petit commentaire. On va terminer par ça. Vous qui montez sur des ânesses blanches, qui êtes assis sur des tapis, donc il s'agit des gens les plus riches, les ânesses blanches, c'était les belles voitures de l'époque, les Mercedes ou je ne sais quoi. Une ânesse blanche, évidemment, nous, ça ne nous dit rien. Mais vous qui êtes assis sur des tapis, vous qui marchez sur les routes, réfléchissez. C'est les trois catégories sociales, les très riches, les moyennement, la classe moyenne et ceux qui marchent sur la route, les plus simples. Que par leur cri, les porteurs d'eau célèbrent ce que le Seigneur a fait pour la justice, ce qu'il a fait pour la justice à la tête d'Israël. Alors le peuple du Seigneur est descendu aux portes de la ville. Bénissez le Seigneur. Que vous soyez riches, que vous soyez partie des classes moyennes, que vous travaillez dur comme les porteurs d'eau qui marchent sur les routes, célébrons le Seigneur pour ce qu'il a fait. La nation entière a des raisons. Maintenant qu'elle connaît la paix et la sécurité, de louer le Seigneur. Vous avez vu, il n'y a pas de gloire particulière pour Déborah. Elle se contente de dire, moi, je chante à l'Éternel. Elle dit simplement qu'elle s'est levée comme une mère en Israël. Vous voyez, ce n'est pas particulièrement glorieux. Elle ne parle pas d'héroïne, elle ne parle pas de reine, comme une mère en Israël. Et je crois que Dieu doit nous donner à tous ce cœur de Déborah, pour nos familles, pour notre église, pour notre quartier. Éveille-toi, entonne un chant. Elle est centrée sur Dieu, sur le peuple volontaire. Elle dit, moi je chanterai, je me lève, j'entonne un chant. L'enseignement pour nous, c'est toujours diriger nos regards vers Dieu. Elle va montrer les causes de l'oppression sans jugement, l'idolâtrie, le manque d'armes. Elle montre aussi les causes de la délivrance. Ils ont fait confiance en Dieu, le peuple a été volontaire, uni dans le combat. Donc ils ont eu la victoire. Crois, obéit. Et elle va chanter la gloire de Dieu en rappelant ses hauts faits. Je crois que c'est notre rôle à tous en terminant cette histoire de Déborah. Je crois qu'elle est un exemple extraordinaire de fidélité, d'humilité, de confiance, d'obéissance. Et l'exemple aussi extraordinaire que Dieu utilise n'importe qui, même une femme, dans une période où les femmes n'avaient absolument pas de poids Et c'est important d'en prendre conscience. Ça veut dire que, comme dit la Bible, ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. À partir du moment où on est dans cette confiance, crois, obéis. C'est le seul moyen d'être heureux en Jésus.
Et dans le dernier verset des Juges, il est dit « Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. » Le pays fut tranquille pendant 40 ans. Si nous l'aimons, si nous aimons le Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, comme Déborah l'a fait, comme ce qu'on a entendu, eh bien, nous pouvons paraître dans toute la force comme le soleil. Nous pouvons être de ceux qui brillons vers l'extérieur et qui ne sommes pas affectés par les ténèbres du dehors. Amen. Est-ce que nous voulons être de cela? Et je crois que eh bien, cette histoire de Déborah nous encourage à aimer le Seigneur et que tout est possible à ceux qui croient. Amen. Tout est possible à celui qui croit.